Merci de nous retrouver sur Fréquence Mistral. Pour notre chronique mensuelle, nous retrouvons Nahiri Boudet, sexothérapeute assiste au rond EGAP, spécialiste en sexologie et thérapeute de couple. Nahiri Boudet, une question qu'on peut se poser, c'est le changement. Changement de, changement avec, changement tout court. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à le rapporter à notre personne et de quelle façon ?
C'est une question qui est très intéressante et que je trouve pertinente à poser et que se posent d'ailleurs souvent les personnes qui viennent à mon cabinet. À partir de quand je peux dire que j'ai changé ? À partir de quoi je peux voir que les choses sont différentes ? C'est ce que me disait une personne ce matin en consultation. J'ai l'impression de tourner en rond et pourtant je sens que j'ai changé. Alors comment définir vraiment ce à quoi tient le changement ? Est-ce qu'on doit passer par des choses pratiques ? C'est-à-dire le fait par exemple de lister des objectifs, de se poser des challenges ? Est-ce que ça peut s'inscrire dans le corps par exemple le changement ? Pourquoi pas ? Parce qu'en effet, le fait que ça devienne tangible, ça permet de mesurer.
Est-ce qu'il faut le décider ce changement ? Est-ce qu'il faut être systématiquement acteur ? De ce changement, où on peut devenir spectateur de son propre changement. Comment est-ce que ça peut se passer, le mécanisme ?
Encore une fois, ce que vous dites est très intéressant parce que ça dépend du regard que je pose sur moi, mais aussi du regard que les autres posent sur moi. Parfois, on peut dire de quelqu'un « Oh, il a changé, je ne la reconnais pas, elle est différente. » Et la personne peut dire « Non, mais je suis toujours le même, je suis toujours la même. » En vérité, c'est du discours, c'est-à-dire qu'on sait tous au fond de nous-mêmes que nous changeons en permanence, puisque nous sommes sensibles à ce qui se produit dans notre environnement. Nous sommes sensibles aussi à nos changements d'humeur qui nous conduisent à appréhender la réalité d'une manière différente. Mais en effet, je crois qu'on peut dire qu'on peut être à la fois pleinement acteur, volontaire du changement, et en même temps, ce sont les autres qui disent que nous changeons, et ça a un effet sur nous. Là aussi, c'est du discours, mais ça a un effet pratique aussi. Et quand les autres me disent que j'ai changé et que je ne me reconnais pas dans leur discours, eh bien, soit je vais essayer de leur montrer dans des faits aussi que je suis, entre guillemets, toujours le ou la même, soit ça va m'aider à me rendre compte, effectivement, que dans mon comportement, dans ma manière de me tenir ou de parler ou d'être, tout simplement, des choses ont changé.
Quand on dit changement, est-ce qu'il faut tendre vers un mieux, vers autre chose, vers quoi ? Le changement, ça peut être quoi ?
Eh bien, je crois qu'on aime tous l'idée de changer vers un mieux, mais ça devient très subjectif, car ce qui peut être mieux pour moi peut être perçu comme extrêmement ennuyeux par d'autres. Par exemple, le fait que je gagne en émancipation, même dans ma relation conjugale, ça peut agacer mon ou ma partenaire. Et pourtant, ça peut être une chose intéressante pour moi et pour l'autre qui se définissait comme, par exemple, mon sauveur ou ma sauveuse. Ça va changer quelque chose au niveau de la dynamique du couple et ça peut être inconfortable pour le ou la partenaire.
Le changement n'est pas forcément synonyme de chamboulement, on est bien d'accord. Ça peut se faire crescendo et en harmonie aussi.
Oui, mais là aussi, c'est subjectif. Puisque l'autre peut toujours se sentir heurté par le fait que je change ou que je ne change pas d'ailleurs. En fait, c'est pour ça que c'est important de se rappeler que nous changeons en permanence. Par contre, nous décrétons que nous changeons ou les autres décrètent que nous avons changé à partir de points bien particuliers. Et c'est ces points-là qu'il est intéressant de pouvoir analyser. Par exemple, est-ce qu'on parle de mes relations sociales ? Le fait que je me sois retirée de mon tissu social ou au contraire que plus que jamais, je cherche à diversifier les rencontres que je fais. Là, c'est un point concret quelque part qui me permet de sentir quelque chose sur moi. Le fait que j'ai besoin de davantage de contacts sociaux ou au contraire que j'ai besoin de me retirer en moi-même. Mais là, ça n'implique pas forcément que ce soit bien ou mal, puisque je peux me retirer en moi-même. Ça n'indique pas forcément que je sois en complète dépression, mais par exemple juste que j'ai besoin de prendre du recul et d'interroger la nature des relations que je crée. Et au contraire, le fait que je me projette sans cesse dans la création de nouvelles relations, ce n'est pas forcément signe de bonne santé psychique. Ça peut être aussi que je me sens extrêmement vulnérable et que j'ai un besoin de validation qui est énorme et qui me pousse à côtoyer toujours plus de personnes qui pourraient venir confirmer que je suis quelqu'un de bien, qui fait des choses bien et qui a de la valeur.
Là, j'ai l'impression, Nahiri, que nous sommes dans un changement, on va dire, entre guillemets, positif. Est-ce que le changement, ça peut être une fuite aussi, et quelque part fuir et se cacher une réalité, et peut-être aussi se masquer une forme de soi-même et qui n'est pas forcément bon pour l'équilibre en soi?
Mais qu'est-ce que ça pourrait être, un changement négatif? En fait, je ne sais pas si c'est vous qui avez dit positif. Positif dans le sens où ça ne fait... pas de mal, mais le changement implique une renonciation et la renonciation, ça fait toujours un peu mal. Je crois que le changement, c'est jamais une aventure qui n'est que simple à vivre, puisque ça pousse aussi la personne à se justifier à ses propres yeux et aux yeux de l'autre ou des autres. Donc c'est ça aussi qui peut être négatif, c'est-à-dire que les autres aussi vont me demander « Mais est-ce que tu crois vraiment que c'est un bon choix que tu as fait? Est-ce que tu penses que ça correspond à la personne que tu es ?» Et là aussi, c'est gênant parce que c'est quoi la personne que je suis? Étant donné qu'en fait, je suis en perpétuel changement. Donc des fois, ce sont les autres aussi qui ont besoin de me voir comme une entité un peu monolithique, un peu figée, parce que cette identité leur était confortable, mais pas forcément à moi, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément bien. Ça peut être bien parce que, pour moi, dans le sens où ça me permet de m'imaginer plus grande et plus multiple, mais par contre, ça peut être moins bien dans le sens où je vais perdre des relations affectives qui, somme toute, peut-être, étaient quand même bonnes à vivre pour moi.
Pour rester un peu le champ, peut-être au sein même du couple, le changement, est-ce qu'il peut se construire? Est-ce qu'il peut se négocier peut-être également? Est-ce qu'on peut en discuter à deux du changement, l'anticiper ou alors laisser faire les choses?
Eh bien, c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire que comme on change en permanence et qu'on fait des choix tous les jours, du coup, des fois, le partenaire ou la partenaire se sent un peu pris de court aussi par rapport au choix que fait l'autre. Et il est vrai que lorsque dans le couple, l'une des deux personnes va gagner davantage d'argent. Des fois, ce sont des questions vraiment triviales, mais par exemple, le fait de pouvoir avoir davantage de pouvoir d'achat, ben, ça va conduire la personne à changer dans le modèle interactionnel. Si avant, je gagnais moins que mon compagnon, et qu'aujourd'hui, je gagne autant si ce n'est plus, je vais peut-être me permettre de donner davantage mon avis quant à la manière dont on s'alimente, quant à la manière dont on décore la maison, voir les aménagements que l'on fait au sein de l'appartement, le lieu où on a envie de passer les vacances avec les enfants, l'école dans laquelle on a envie de mettre ses enfants. Et donc du coup, je vais m'affirmer davantage. Et donc du coup, aux yeux de mon partenaire, je vais avoir l'air différente, par exemple. Donc voilà où, comment un truc tout bête, entre guillemets, gagner davantage d'argent, ben ça va conduire la personne à s'affirmer davantage. Et donc du coup, là où peut-être on pouvait l'apercevoir timide et effacée, ben la personne va au contraire apparaître beaucoup plus affirmée, voire chiante. Parce qu'en fait, beaucoup plus convaincue et qui cherche à convaincre les autres de ce qu'elle pense.
Le changement, est-ce que ça peut impliquer ce qu'on appelle faire table rase, par exemple, et se faire violence? Est-ce qu'il faut passer par ce genre de phase où les choses peuvent se faire dans la souplesse et dans une réflexion au fil du temps, en fait, et pas prendre une décision trop brutale, peut-être?
Je pense que c'est important, en tout cas dans un couple, pour que le couple puisse exister, continuer à exister de manière sereine, qu'on se tienne au courant des choix que l'on a envie de faire pour soi, et non pas de demander l'autorisation à l'autre, mais de lui demander comment lui ou elle se positionne par rapport au choix que l'on fait. Parce que si on est en couple et qu'on prend l'habitude d'avancer à deux, forcément les choix que je vais faire pour moi, les choix individuels, ça va impacter l'autre. Mais même quelque chose de drôle, c'est-à-dire par exemple la carrière professionnelle que je choisis de mener. Si par exemple je deviens directrice d'une ONG en Afrique, ben, ça va impliquer des allers-retours. Ah non, même pas. Ça va impliquer par exemple que je prenne l'avion régulièrement pour aller en Afrique. Et si mon compagnon est un écologiste convaincu, ça peut lui poser un dilemme moral.
Et il aurait tout à fait raison de se demander, mais en fait, pour moi, prendre l'avion, ça fait partie des choses que j'essaie d'éviter. Et là, du coup, ma compagne se retrouverait disposée à prendre l'avion pour aller très très loin, mettons en Afrique du Sud, tous les mois ou deux fois par mois. Voyez, donc, et du coup, je pense que c'est important de pouvoir non pas demander l'autorisation à l'autre, si moi je n'ai pas à demander à mon compagnon s'il est d'accord pour que je travaille à ce poste, j'ai le droit d'être contente qu'on me propose ce poste parce que ça me renarcissise, etc. Je précise, c'est fictif, hein, je n'ai pas du tout dans l'idée de changer de travail, je suis très bien là où je suis, mais c'est simplement pour dire que c'est important que je donne la possibilité à l'autre quand même d'exprimer les limites que lui voit pour lui dans cette nouvelle situation. Et c'est pas forcément est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on reste pas ensemble, mais du coup, comment on tient compte des limites que ça vient donner. Et là, je parlais d'un dilemme de morale, justement, je trouvais plus intéressant de parler de ça plutôt que juste de mon absence à la maison, puisque je serai sans cesse en vadrouille du fait de mon travail. Chose qui se retrouve aussi dans la vie quotidienne, en fait, pour le coup, des personnes qui viennent me consulter. C'est-à-dire comment est-ce que ça se passe si tout simplement je crée mon entreprise dans le bâtiment par exemple et que je travaille tous les jours, même le week-end et que je suis moins présent à la maison. C'est pas pour demander encore une fois l'autorisation, mais c'est important de voir comment est-ce que ça peut impacter sur la vie de l'autre et en fait pas que sur la vie de l'autre mais aussi au niveau de ses valeurs et aussi au niveau de son idéal. Si l'autre a comme idéal un couple quasi fusionnel où on partage beaucoup, beaucoup de choses dans la proximité intellectuelle et physique, bah le fait qu'il y en ait un des deux qui a un poste qui le conduise à régulièrement voyager, bah forcément, ça va venir interroger l'autre dans son idéal. Donc là aussi, ça n'implique pas forcément que l'on se sépare, mais il va y avoir des changements et il y a déjà des changements au moment où on le dit. Parce que du coup, ça crée des interrogations, ça crée des peurs, ça crée des désirs aussi. Et donc du coup, c'est important de pouvoir se demander à deux, qu'est-ce que ça nous fait déjà ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire ? De manière à ce que le mot changement n'implique pas forcément séparation ou division.
Alors, changement de rythme de vie, changement peut-être d'entourage, etc. Et le changement physique, quand il passe par la chirurgie esthétique dans un couple, ce n'est pas forcément toujours bien perçu. On remarque qu'il y a une tension dans les couples, ça change.
Et oui, c'est vrai, puisque, en fait, là, je pense par exemple à la rhinoplastie. Quand j'étais en études d'anthropologie, j'avais des cours d'anthropologie de l'Iran et notre professeur, donc Christian Bromberger, un anthropologue assez connu dans le milieu, nous avait parlé du fait que l'Iran, c'était l'un des endroits dans le monde où avaient le plus eu lieu les interventions sur le nez. Et donc, ça me fait penser à un documentaire Arte que j'avais vu. C'était une jeune femme iranienne, une dessinatrice, une artiste en fait, qui parlait de son nez, donc qui était, bon, il faut le dire, plutôt courbé, quoi. Et qui disait qu'elle avait complexé sur son nez toute sa vie et que bah, finalement, elle avait choisi de le garder tel qu'il était, au contraire de sa sœur qui, elle, avait choisi de recourir à la chirurgie esthétique parce que pour elle, ça symbolisait son histoire, son identité, la fuite hors d'Iran, etc., etc. Donc, c'est pas juste changer. Et pour elle, changer de nez, c'était aussi changer son histoire, changer sa culture, changer son héritage. Mais on peut trouver aussi que justement, ça peut être intéressant, pour reprendre vos termes, de faire table rase du passé et de, du coup, choisir artificiellement, du coup, mais de créer un nouveau personnage, un personnage qui serait donc délesté de son histoire culturelle ou de son histoire culturelle iranienne. Et elle pourrait complètement, puisqu'elle s'était installée en Allemagne, complètement embrasser la culture allemande avec son nouveau-né et donc une nouvelle identité. Parce que ben, le nez, ça fait partie des attributs du visage qu'on ne peut pas louper, quoi.
Quand on a envie de changer, d'après les réflexions que nous avons eues, c'est pour un changement, pour améliorer en fait. Nous sommes bien d'accord sur le principe, Nahiri.
Améliorer, gommer, oublier aussi. Je crois, de la même manière, certaines personnes que je reçois au cabinet se décrivent comme vraiment prises dans une frénésie d'activité et d'occupation le week-end. Je crois qu'on est quand même dans une société du projet. Les personnes sont invitées à voir sans cesse de nouveaux projets de maison, de nouveaux projets professionnels ou de nouveaux projets occupationnels ou de hobby, etc. Et il y a quand même un risque de perte de soi. Le changement, le fait de souhaiter changer est en même temps une manière de reprendre corps, de reprendre du pouvoir sur son corps et son environnement. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face aussi. Ça peut être tout à fait une manière de perdre pied, justement. Je pense à une émission que j'ai regardée la dernière fois, puisque vous parliez de chirurgie esthétique. Et ça me fait penser à une émission que je regardais. C'est Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollaert. Ils font des rediffusions sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Et c'était une jeune femme de la télé-réalité, je crois qu'elle s'appelle Victoria, bon, peu importe, et puis elle fait Les Anges, je ne sais pas quoi, je ne connais pas trop, et elle disait qu'en fait, pour elle, le fait de faire des changements sur son corps, c'était une manière de reprendre du pouvoir sur son corps, puisqu'en fait, elle avait, avec la télé-réalité et les émissions de télé, elle avait l'impression de tellement plus être maître de ce que les autres percevaient d'elle, qu'elle avait besoin de façonner son image comme elle avait envie. Et donc, en fait, façonner, encore une fois, son corps et son visage, mais le visage fait partie du corps, pour essayer de correspondre à l'image qu'elle a envie de donner. Et en même temps, ce qu'elle exprimait, c'était qu'elle avait fait plein d'injections et que, bon, je ne me souviens plus exactement pourquoi ça avait fini par lui poser problème. Sans doute parce que ben, le résultat était... peut-être un peu trop exagéré à ses yeux, ou en tout cas aux yeux des personnes qu'elle côtoyait. Mais en même temps, je trouve que l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'elle veut se sauver, quoi, en essayant de retrouver du pouvoir sur son corps. Parce qu'elle se sentait prise dans le feu de ce qu'est la télé. Et c'est quand même du jetable, de la consommation de personnages télé.
Un petit conseil que vous pourriez éventuellement donner, quel serait-il à une personne qui a envie de changer, mais pas forcément d'une façon trop violente, d'une façon évolutive, on va dire?
Mais je trouve que la technique un peu rationalisation, elle est pas mal intéressante, c'est-à-dire de peut-être venir noter sur un cahier quels sont les endroits au sein desquels j'ai envie de changer, les relations que j'ai envie de modifier et de m'en demander pourquoi. C'est-à-dire quel intérêt je peux avoir à changer dans ces relations, c'est-à-dire à me positionner différemment, quel intérêt je peux avoir à changer de travail, quel intérêt je peux avoir à changer de coupe de cheveux, de forme de nez ou de dentition, quelle est l'image que j'ai envie d'avoir de moi, quelle est l'image que j'ai envie de donner à avoir de moi. Pas du tout dans le but de faire un avantage-inconvénient, mais tout simplement, qu'est-ce que ça dit de la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui? Et ça permet, comme on disait tout à l'heure, à quoi on mesure le changement? Ben, ça me permet au moins de prendre conscience de ce à quoi j'ai envie que ces changements servent. Quand on parle de changement, et notamment de changement corporel, je pense que c'est important de parler de la prise de poids et de l'impact aussi que ça peut avoir dans les relations conjugales. Non pas que ce soit mal de prendre du poids, mais il est vrai que j'ai reçu plusieurs fois des personnes au cabinet qui ont exprimé le fait qu'elles étaient un petit peu déroutées par rapport à l'apparence en fait qu'avait prise leur compagnon ou leur compagne. Je pensais à des femmes par exemple qui ont pu me dire qu'elles éprouvaient moins de désir pour leur compagnon ou mari depuis qu'il avait pris du poids. Et en fait, ça peut sembler un petit peu bizarre, mais plus souvent, en tout cas, je l'ai entendu dire de femmes que d'hommes directement, même si des hommes ont déjà dit au sein de mon cabinet qu'ils avaient observé que leur femme avait pris du poids, mais par contre, ils n'en parlaient pas comme d'une raison pour laquelle elle pourrait moins leur plaire. Même si c'est arrivé en effet, mais là, en tête, j'ai plus d'exemples de femmes et ça pourrait rentrer dans ce que vous appeliez tout à l'heure un changement négatif. Mais justement, je trouve que c'est important de pouvoir se poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire sur le plan symbolique, en fait, la prise de poids? Hormis le fait qu'on va avoir peut-être plus de graisse au bidon ou au niveau des fesses, qu'est-ce que ça signifie pour moi, prise de poids? Pour certaines personnes, ça veut dire... négligence, pour d'autres personnes ça veut dire accident, pour d'autres personnes ça veut dire cours normal de la vie, pour d'autres personnes ça veut dire vieillissement cutané. Et pour certaines personnes, ça veut dire complètement insupportable, perte de désir absolu. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Là, encore une fois, il ne s'agit pas de demander à son partenaire « Est-ce que j'ai le droit de prendre du poids ?» ou « Quitte-moi si tu veux ». Non, ce n'est pas ça. On n'a pas, enfin, je veux dire, des fois, on a des événements de la vie qui font qu'on prend du poids ou on en perd et puis c'est comme ça. Mais par contre, c'est intéressant, je trouve, de pouvoir s'interroger à deux à propos de l'image du corps qui change pour soi, mais aussi dans le regard du partenaire, pour que ça amène le partenaire à s'interroger à propos de lui aussi. Et puis après tout, changer, des fois, c'est aussi tout simplement s'assumer.
Nahir Iboudé, pour plus d'informations, le contact peut-être, plus de renseignements.
Eh bien, les personnes qui sont en quête de changement pour elles-mêmes, pour être plus en accord avec elles-mêmes ou qui souhaiteraient trouver le moyen de faire accepter ce désir de changement par les autres, trouver le moyen de communiquer efficacement leur désir de changement ou leur crainte à changer, voire leur difficulté à changer, eh bien, elles peuvent me contacter au 07 49 92 31 65 pour prendre un rendez-vous à mon cabinet de Gap ou de Sisteron.